Radio Prague, les informations.
Zone euro, le ministre des Finances veut contribuer à hauteur de 1,5 milliard d'euros. Renflouement du FMI. Le ministre de la Défense, Alexander Vondra, entend prolonger de 2 ans la mission des soldats tchèques en Afghanistan. Et en tennis, à l'Open d'Australie, Nadal bat Berdych, non sans peine. Le ministre tchèque des Finances, Miroslav Kalousek, va proposer mercredi au gouvernement une baisse à 1,5 milliard d'euros de la quote-part éventuelle de Prague au renflouement du Fonds monétaire international pour aider la zone euro. Cette somme devrait être tirée des réserves en devises de la Banque centrale tchèque. Selon le plan initial, la contribution de Prague devrait se chiffrer à quelques 90 milliards de couronnes, soit 3,5 milliards d'euros, soit 11% des réserves en devises de la Banque centrale. Le Premier ministre Petr Nečas a annoncé la semaine dernière que son cabinet comptait négocier une diminution de la quote-part de Prague. Miroslav Kalousek a été chargé par le Premier ministre de soumettre, lors du Conseil des ministres de mercredi, un projet plus détaillé avec, je cite, « des paramètres concrets ». Le ministre de la Défense, Alexander Vondra, accompagné de chefs d'entreprise tchèques, entame ce mardi une visite à Washington où il sera notamment reçu par son homologue américain Leon Panetta. Leurs pourparlers porteront essentiellement sur les préparatifs du sommet de l'OTAN qui se tiendra en mai prochain à Chicago, sur le projet de mise en place en République tchèque d'un centre de formation des pilotes de l'OTAN ou encore sur la situation en Afghanistan. À ce sujet, Alexander Vondra a déclaré aux médias tchèques qu'il avait l'intention de proposer au gouvernement de prolonger de 24 mois la mission des soldats tchèques en Afghanistan, mission qui doit théoriquement se terminer à la fin 2012. Le président Václav Klaus a vertement critiqué le monde universitaire en colère contre le projet controversé de réforme des universités du pays. S'exprimant à la radio publique tchèque ce mardi, le président s'est dit outré par les réactions des universitaires vis-à-vis des propositions qui sont pour lui essentielles. D'après lui, ceux-ci joueraient à un jeu faux sur leur indépendance. En outre, d'après lui, l'enseignement universitaire ne produirait ni de formation ni de sciences de qualité. Plus de détails sur cette information dans les faits et événements dans quelques instants. Quelques 630 salariés sur un total de 6000 quitteront la filiale tchèque du sidérurgiste ArcelorMittal à Ostrava dans le cadre d'un plan de départ volontaire lancé afin d'augmenter la compétitivité du site. Dans la situation incertaine qui règne actuellement sur le marché de l'acier en Europe, il faut que l'entreprise soit compétitive, a déclaré à l'AFP la porte-parole de la filiale tchèque Věra Brajová. Le chiffre de 630 n'est pas définitif, le processus est toujours en cours. Le plan concerne les ouvriers aussi bien que les employés de toutes les tranches d'âge. Fin de citation. À noter que l'ancien diplomate, écrivain et historien Miloš Pojar est décédé lundi à l'âge de 71 ans. Miloš Pojar était éditeur pour la maison d'édition de l'Académie des sciences et il est à l'origine d'un grand nombre de livres consacrés au judaïsme et à Israël. Après la chute du communisme en 1989, il a été ambassadeur en Israël, un poste aujourd'hui occupé par son fils. Et puis en tennis, le joueur tchèque Tomáš Berdych, tête de série numéro 7, affrontait ce mardi l'Espagnol Rafael Nadal, le numéro 2, en quart de finale de l'Open d'Australie. C'est finalement l'Espagnol qui se retrouvera en demi-finale contre Roger Federer après avoir, non sans peine, éliminé Tomáš Berdych en 4 manches, 6-7, 7-6, 6-4, 6-3, au terme d'un rude combat de plus de 4 heures mercredi. C'est Petra Kvitova, numéro 2 mondial chez les femmes, qui rencontrera l'Italienne Sara Errani. On finit par un mot de météo. Mercredi, jour de fête des Miloches, le temps sera plus clair, avec toutefois des passages nuageux. Les températures seront comprises entre moins 3 et 1 degré. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Paul Bauer.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci Anna Kubišta pour ce bulletin d'information et bienvenue à l'écoute de l'actualité sur Radio Prague. Au sommaire d'aujourd'hui, réforme des universités, le ministère de l'Éducation maintient la soumission des textes de la réforme, les universités s'y opposent et annonce des protestations pour le mois prochain. L'Institut tchèque des statistiques continue de publier les résultats du recensement décennal qui a été réalisé l'an dernier. Nous verrons quelles sont les principales évolutions qui ont été enregistrées pour la ville de Prague avec Magdalena Hrozinková. Rubrique Panorama, Anne-Claire Veduire nous emmènera dans la galerie Smetchki dans le centre de Prague, près de la place Venceslas, où sont exposés des exemplaires de marionnettes qui ont fait l'histoire de cette tradition tchèque. « Quelque 1 273 000 personnes vivaient à Prague en 2011. Ce nombre d'habitants le plus élevé dans l'histoire de la capitale a été publié ce lundi par l'Institut des statistiques tchèques, qui continue de présenter des données issues du recensement décennal de la population réalisé l'année dernière. Quelques détails sur la démographie de la capitale avec Magdalena Rosinkova.
La population de Prague a augmenté de 104 000 personnes depuis le dernier recensement de 2001. Cette hausse s'explique essentiellement par le nombre croissant d'étrangers. Ces derniers, majoritairement des Ukrainiens, des Russes et des Slovaques, représentent 14% de la population pragoise. Autrement dit, 40% du nombre total d'étrangers vivant en République tchèque résident dans la capitale, attirés essentiellement par les possibilités d'emploi que celle-ci offre. Autre résultat quelque peu étonnant, la population de Prague est la plus âgée de toute la République tchèque. Professeur de démographie à l'université Charles, Jitka Rechtaříková explique pourquoi.
La proportion des personnes à l'âge de 65 et plus est 16%, tandis que dans la République tchèque, c'est à peu près 15%.
Et comment expliquez-vous ce vieillissement de la population pragoise ?
Il y a des facteurs qui contribuent à cela. D'une part, c'est la mortalité des personnes âgées qui baisse, mais d'autre part, c'est aussi la proportion des enfants qui diminue. Donc, comme à Prague, l'indicateur conjoncturel de fécondité, ce qui est le nombre moyen d'enfants par femme, le plus bas à Prague, cela contribue aussi au vieillissement démographique.
Toujours selon les statistiques les plus récentes, le degré d'instruction des Pragois serait le plus élevé de toute la République tchèque. Un Pragois sur quatre aurait une formation supérieure. Une donnée qui ne surprend pas vraiment dans une ville où siègent une douzaine d'universités. Jitka Rechtaříková ajoute une explication supplémentaire.
Je ne crois pas que c'est seulement le nombre des écoles qui joue le rôle. Je crois que c'est plutôt l'offre des emplois pour les personnes les plus instruites qui jouent le rôle plus important.
Une des données relevées lors du recensement 2011 a été très remarquée par les médias nationaux et elle sera sans doute encore largement développée dans la presse féminine. Pour la première fois de son histoire, la capitale tchèque comptait plus d'hommes célibataires que d'hommes mariés. Voici le commentaire de Jitka Rechtaříková.
Concernant la proportion des hommes célibataires, c'est lié au fait que le niveau de nuptialité baisse partout. C'est aussi dû au fait que l'âge au premier mariage est plus tardif par rapport au passé. Ce phénomène-là, on voit surtout à Prague. Donc je crois que c'est plutôt l'ajournement des mariages qui joue le rôle et aussi le nombre de mariages qui est beaucoup plus faible. Le niveau de divorcialité à Prague n'est pas le plus élevé concernant la République tchèque parce que chez nous, les hommes ayant le niveau d'instruction supérieur rompre le moins le mariage.
Pour terminer sur un autre constat positif, le nombre de naissances hors mariage est relativement faible à Prague, 35% comparé à 50% dans le nord de la Bohême.
L'année démarre bien difficilement pour le ministre de l'Éducation, Joseph Dobech. Après le dossier des fonds structurels européens gelés pour mauvaise gestion, la réforme des universités, l'une des réformes clés de ce début d'année, semble plus que jamais dans l'impasse. Alors que le ministre s'apprête à soumettre au gouvernement les textes qui devraient être inscrits dans la loi, Joseph Dobech doit faire face au durcissement d'une fronde académique qui s'oppose de manière univoque à la proposition ministérielle. Menée par le recteur de l'université Charles, Václav Hampel, le mouvement de protestation accuse le ministre de soumettre des réformes dangereuses pour l'autonomie des universités et de contribuer à l'endettement massif des étudiants. Joseph Dobech souhaite en effet modifier le financement des études en proposant la mise en place de prêts étudiants octroyés par les banques et dont l'État se porterait garant. Jeudi dernier, Václav Hampel avait convoqué une réunion des responsables académiques de l'université afin de mettre en garde contre l'adoption d'un projet de réforme considéré comme mal engagé et mal préparé. Devant la fronde qui rassemble désormais la majorité des établissements de l'enseignement supérieur, et afin de sortir de l'impasse, le ministre a convoqué à son tour lundi les chefs du Sénat académique, organe qui représente l'ensemble des dirigeants des établissements publics de l'enseignement supérieur. Loin d'avoir apaisé le conflit, la réunion s'est soldée par un cuisant échec de communication. Alors que les représentants des universités souhaitaient obtenir une reformulation des points litigieux, le ministre s'est en effet montré catégorique en refusant de revenir sur les négociations et en affirmant que le texte d'orientation choisi serait soumis au gouvernement. Et on écoute Joseph Dobesch.
Deux matériaux d'orientation seront soumis au gouvernement. Ce sont des orientations qui ont été maintes fois discutées à la suite d'une ultime négociation entre les spécialistes et la coalition. Nous nous sommes décidés pour l'application de l'une des six variantes possibles que nous avions initialement choisies. La variante sur laquelle nous nous sommes mis d'accord ira bien au gouvernement.
Le ministre a ajouté que le texte était inspiré du travail d'académiciens renommés et du modèle universitaire autrichien. Afin de dissiper tout malentendu sur une éventuelle politisation de la gestion des universités, le ministre a en outre rappelé la répartition et les modes de nomination des conseils et des conseils académiques que la réforme prévoit et les difficultés que l'université rencontrera à l'avenir.
Dans le futur, deux tiers des postes seront désignés par les universités et un tiers le sera par le ministère. Il est nécessaire que l'administration de l'État ait au moins un tiers du pouvoir de contrôle sur ce qui se passe dans les universités. Il convient également que dans les conseils soient présents des économistes et des personnes qui sauront gérer les difficultés que les universités rencontreront sans aucun doute dans un proche avenir.
Le recteur de l'université Masaryk de Brno, Mikuláš Bek, rappelle que, outre les difficultés liées à la communication ministérielle, le conflit entre les responsables académiques et le ministère concerne également les modes de financement des études et le soutien aux étudiants. On écoute Mikuláš Bek.
Nos réticences portent sur la manière dont les matériaux d'orientation ont été traduits dans les textes, particulièrement l'aide aux étudiants, un point sur lequel aucune négociation régulière avec les représentants des universités n'a été menée. C'est là notre principale objection. Évidemment, sur les contenus, il y aura toujours des difficultés. Les différents acteurs auront des avis différents. Savoir si tel poste sera fonctionnel, quelle sera la forme du processus d'accréditation. Mais je crois que la soumission d'une proposition au gouvernement ne devrait pas comporter les fautes laissées dans la préparation du texte. Or, c'est ce qui s'est passé, selon moi.
La réforme des universités devrait être débattue par le gouvernement dans les prochaines semaines. Les responsables académiques préparent les réformes de protestation et les actions de communication qui devraient être lancées fin février. Dans le centre de Prague, la galerie Smetsky expose depuis plusieurs semaines et pour quelques jours encore des marionnettes tchèques confectionnées depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours. L'occasion de revenir avec Pavel Trulaj, commissaire de l'exposition, sur la tradition des marionnettes en République tchèque. Une petite visite guidée au micro d'Anne-Claire Veluire.
Panorama.
Panorama.
Avec le cristal de Bohême, les marionnettes tchèques sont un des principaux souvenirs typiques que les guides touristiques conseillent généralement aux touristes. Quelle est donc cette tradition tchèque des marionnettes et à quand remonte-t-elle en Bohême? C'est ce qu'illustre l'exposition « Les marionnettes tchèques, tradition et présent » préparée par Pavel Trulaj, par ailleurs marionnettiste et qui, soit dit en passant, porte bien son nom puisque cela veut dire « menuisier ». On écoute donc Pavel Trulaj.
L'exposition que nous avons appelée les marionnettes tchèques, tradition et présent, décrit l'histoire des marionnettes tchèques de la première moitié du 19e siècle à aujourd'hui. Une grande partie de l'exposition, la partie historique, provient de la collection personnelle de Alena Vodlova. Elle est complétée par sept auteurs contemporains qui créent aujourd'hui pour des théâtres de marionnettes, pas seulement en République tchèque mais aussi à l'étranger. Les marionnettes sont arrivées en Europe centrale dans le courant du XVIe siècle, avec des troupes de comédiens ambulants qui venaient d'Angleterre, de Hollande, d'Italie. En Bohême, la tradition s'est établie dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, époque où nous avons la première mention de marionnettistes tchèques itinérants.
První záznamy o českých kočovných loutkářích.
La tradition s'est ensuite ancrée durant le 19e siècle. Les plus anciennes marionnettes rassemblées pour l'exposition sont celles du marionnettiste Mikuláš Syrovský de la première moitié du 19e. Alors que représentent ces marionnettes? Quels sont les personnages récurrents de ces figurines animées? On écoute Pavel Truhláš.
Stojíme teďka před
Nous nous trouvons ici devant une installation que nous avons appelée la forêt hantée, où nous pouvons voir des diables, des ondins, des squelettes, des fantômes de différents auteurs, du 19e siècle aux années 1950 du siècle passé. Les personnages de diables ont toujours été une base du théâtre de marionnettes, qu'ils soient négatifs ou positifs. Il n'est pas possible de se passer du diable dans le théâtre de marionnettes.
Na téhle stěně máme instalaci od řezbáře Alessiho.
À côté, nous avons une installation du sculpteur Alessi, qui était à l'origine italien et qui est arrivé à Prague dans les années 1830-1840 en tant que conservateur et restaurateur des églises de Prague. Il a aussi commencé à sculpter des marionnettes et nous avons ici une belle collection de ses œuvres. À son époque, il était particulièrement précis et rigoureux, aussi bien pour la sculpture des visages que dans la technologie, dans la mécanique du corps des marionnettes pour leur manipulation.
V technologickém zpracování těl, mechaniky loutky, teda těch těl a toho ovládání ty loutky.
Alors comment vivait cette tradition des théâtres de marionnettes dans les pays tchèques au 19e siècle? Qui avait accès à ces spectacles? Les troupes de théâtre de marionnettes avaient-elles leur propre théâtre ou se déplaçaient-elles de ville en ville? On écoute Pavel Truhláš.
U nás bylo několik kočovných.
Il y avait ici beaucoup de troupes ou de familles de marionnettistes qui voyageaient de ville en ville, de village en village, et qui jouaient pour les adultes. Ils jouaient une semaine dans la même ville avant de se rendre dans la ville suivante. Il y avait à cet effet une certaine variété de marionnettes. Il y avait des marionnettes utilisées par les théâtres itinérants pour attirer les gens à la représentation du soir. Il s'agit de marionnettes qui ne sont pas faites pour des représentations classiques, mais qui sont fabriquées avec des effets spéciaux. Par exemple, un squelette qui perd ses os, des jongleurs ou un acrobate avec une chaise. C'était donc des marionnettes qui étaient faites pour séduire les gens avant la représentation, où elles étaient utilisées comme un supplément après une représentation. Quand il y avait beaucoup d'applaudissements, on sortait une de ces marionnettes pour divertir les spectateurs.
A ta ještě přidala svůj varietní kousek pro pobavení diváků.
Les spectacles de marionnettes n'étaient donc pas destinés seulement à l'attention des enfants, comme c'est principalement le cas aujourd'hui. Et comme on peut le supposer, les textes des représentations n'étaient pas forcément complètement innocents. Pavel Truhláš.
Au 19e siècle, avec les marionnettes que nous voyons autour de nous, que ce soit des chevaliers ou des diables, se jouaient des pièces classiques comme les pièces de Shakespeare. Il s'agissait vraiment de théâtre plus pour adultes que pour enfants. Puis c'est devenu quelque chose plus destiné pour les enfants, mais au début, il s'agissait de représentations destinées plutôt aux adultes et qui s'intéressaient à des thèmes tchèques et peut-être parfois avec une certaine satire politique.
Třeba i jakousi politickou satirou.
On dit en République tchèque que chaque famille possède au moins une marionnette, ce qui semble bien montrer l'ancrage de cette tradition dans la culture tchèque. Pavel Truhláš n'est pas tout à fait sûr que ce soit aujourd'hui encore une réalité, mais il nous explique d'où vient cette tradition domestique des marionnettes.
S tím rodinným loutkovým divadlem to je tak, že
avec ces marionnettes domestiques au tournant des 19e et 20e siècles, il y a ce que j'appellerais un boom des marionnettes. En 1912 a été fondée une association qui s'appelait quelque chose comme l'Association des Amis du Théâtre de Marionnettes Tchèques. Et son slogan était de faire entrer dans chaque famille un théâtre de marionnettes, de fabrication tchèque, pour maintenir la tradition tchèque. Je ne sais pas si c'était dans toutes les familles, mais certainement dans toutes les familles riches, et même dans les familles de classe moyenne. Il y avait de petits théâtres de marionnettes.
Takových středních vrstvách se určitě loutkoví divadla byly v každé domácnosti. renomovaní český umělci, malíři jako Mikuláš Aleš.
Même des artistes comme Mikuláš Aleš ont offert de fabriquer ces marionnettes ou de peindre les coulisses, justement pour que cela reste une production tchèque, pour que l'on parle tchèque, pour que les familles tchèques aient quelque chose qui se fabrique ici et qui maintienne la tradition tchèque. C'était l'époque du réveil national, où on parlait encore beaucoup allemand, tout était inondé de produits allemands. Ces troupes de marionnettistes itinérants jouaient en tchèque, tout comme on parlait tchèque autour de ces petits théâtres domestiques de marionnettes. Il est sûr que cela nous a aidé à ce que la langue tchèque reste vivante.
Český jazyk a zůstal živý.
Même si le théâtre de marionnettes n'a plus le rôle éducatif évoqué ci-dessus, il continue de faire le bonheur des enfants. L'exposition de la galerie Smietchki est d'ailleurs très fréquentée par de nombreux groupes scolaires. Petra Vaniova est professeure des écoles et elle explique pourquoi elle a amené sa classe voir cette exposition.
Les marionnettes sont belles et je pense que c'est bien que les enfants les voient et s'intéressent aux marionnettes plutôt que de rester seulement plantés devant leur ordinateur. Et ils sont intéressés parce qu'ils ont l'habitude de les voir dans les contes et cela leur plaît. Ils en emmèneraient volontiers quelques-unes à la maison.
Alors si vous êtes à Prague cette semaine, courez à la galerie Smietchka située tout près de la place Venceslas, car l'exposition se termine cette fin de semaine. Vous y découvrirez donc cette tradition des marionnettes tchèques depuis le 19e siècle, ainsi que des créations actuelles peu évoquées dans ce sujet, mais qui sont de réels petits bijoux d'humour et de finesse. Et comme je l'ai dit, Pavel Trourlaj est marionnettiste. Ses créations, celles d'autres marionnettistes contemporains et un programme de représentation théâtrale sont sur le www.marionetti.cz.
Merci à Anne-Claire Veluir pour ce reportage. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et de votre fidélité à Radio Prague. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site internet www.radio.cz/fr. Au revoir, nasledanou.